Habermas. Quand j'ai proposé de nous attacher à la pensée de Habermas, je ne pensais pas, au moment de proposer ce programme, que sa pensée aurait une telle actualité. Or, je me réjouis, en dépit du caractère tragique de l'actualité qui est la nôtre, que sa pensée trouve ainsi une actualité. En effet, Habermas, je vais essayer de le montrer, est un des philosophes qui nous aide le mieux à comprendre les enjeux de la démocratie et de la laïcité. Alors, face aux événements qui nous chamboulent et qui mettent en jeu le rapport à des fanatismes, à des religions sous certains aspects, on entend invoquer et même sans cesse reprise les idées de laïcité, de valeurs républicaines, du vivre ensemble, des valeurs qui nous unissent. Et ça ne marche pas. Il est important de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il est important de comprendre pourquoi les terroristes, tels que nous les recueillons au fil des enquêtes, sont majoritairement des gens qui viennent de familles qui ont rompu avec leurs racines ou qui sont convertis d'une autre origine. Et donc, les événements qui nous bouleversent nous conduisent à nous interroger sur l'efficacité et la pertinence de ces fameuses valeurs républicaines que nous reprenons en incantation: liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Quelles abstractions ! Lorsque j'ai introduit la problématique au mois de novembre, quelques-uns étaient déjà là, vous pouvez réécouter la conférence du 20 novembre sur le site, j'avais posé la question dans les termes suivants, en disant au fond, la loi est impuissante à nous faire vivre ensemble. Ce qui nous fait vivre ensemble, c'est une histoire commune, des mœurs, des coutumes. Et une loi qui ne pourrait pas être accompagnée d'une communauté de coutumes ne peut pas prendre, ne peut pas pénétrer le tissu social. La loi, pour pénétrer le tissu social, a besoin d'autres relais. J'avais commencé ainsi mon propos du mois de novembre en disant: vous tous ici, vous n'étiez pas tout à fait les mêmes, quelques-uns étaient déjà là, vous avez l'air d'honnêtes gens et cependant vous ne connaissez pas la loi. Et donc ce n'est pas la loi qui fait de vous des honnêtes gens, mais c'est des références communes, des habitudes de pensée qui sont héritées d'une histoire, qui sont façonnées par les usages, par des imitations réciproques et des choses qui nous pénètrent si profondément, d'ailleurs, que la plupart du temps, on n'a même pas besoin d'en avoir conscience. Car ce qui nous fait agir de la manière la plus profonde, il n'est pas nécessaire que nous le fassions passer sur le plan de l'explicite. J'avais posé aussi, à l'occasion de l'introduction, par là même, la question du fondement de la loi. Et c'est cette question que nous avons rencontrée aussi bien à travers Cicéron qu'à travers Hobbes, qu'à travers Kelsen. Les lois ont-elles un fondement en dehors d'elles qui les justifie, qui permet d'en trouver la raison, soit dans une morale, soit dans une religion? Et j'avais alerté sur ce paradoxe que si les lois ont un fondement, alors on est justifié à leur désobéir. Car ce qui les fonde permet aussi de protester contre ce qu'elles comportent d'injustice, d'inexactitude. si la loi est fondée sur des valeurs morales, si la loi est fondée sur des valeurs religieuses, au nom de ces valeurs morales, au nom de ces valeurs religieuses, je peux être conduit à désobéir à la loi, puisque précisément ces valeurs, en tant qu'elles sont fondatrices, sont supérieures à la loi. Si il n'y a pas de valeur supérieure à la loi, c'est la sublime tentative que Thomas Bourgeois a très bien illustrée à travers Kelsen. S'il n'y a pas de valeur supérieure à la loi, alors ça veut dire que le juste est tout entier contenu dans le légal. Ça veut dire que l'on pourrait déduire la légitimité de la légalité et accepter avec Kelsen de dire que une loi est juste pourvu qu'elle soit déterminée, qu'elle soit écrite dans des conditions légalement compatibles, légalement instituées. Oui, mais à ce moment-là, et on l'a bien vu avec Kelsen, se pose la question de ce que Kelsen appelle la loi fondamentale. Quelle est alors, dans cette hiérarchie, la loi fondamentale ? Quelle est la loi première ? Et là-dessus, Kelsen ne nous apporte pas de réponse. Sommes-nous obligés d'aller à une première violence ? Car après tout, si la loi n'est pas fondée en raison, si la loi n'est pas fondée sur des valeurs qui la transcendent, alors on va dire que son actualité, sa pertinence et son influence tiennent à des accidents historiques et à une première violence qui fait que le premier qui a pu dominer a voulu durer en instaurant des lois. C'est la thèse pascalienne. Ne pouvant faire que la justice soit forte, on a fait que la force soit justice. Et donc, à défaut de remonter à une première fondation qui transcenderait les lois, on serait heurté à un premier accident, une première violence irréductible et irrationnelle. Ah oui, mais alors vous vous rendez compte, quelle raison aurait-on d'obéir ? Si on fait remonter la loi au fait que tu n'as édicté la loi que parce que tu avais le pouvoir. Et c'est bien la question devant laquelle nous nous trouvons actuellement. Je reviens à l'idée première que j'avais énoncée, ce n'est pas à la loi qu'on obéit, mais à la coutume. Idée que j'ai soutenue en disant que une loi qui n'est pas embrayée sur une coutume est impuissante et au fond ne laisse apparaître que son côté de violence. Sans coutume, vous êtes obligé de mettre un flic sous chaque loi et un flic derrière chaque flic, car il ne reste plus que la violence. Et c'est à peu près ce qui se passe, puisque nous avons la chance de vivre dans une société pauvre en coutume. Non seulement une société pauvre en coutume, mais une société discordante en coutume. De telle sorte que le caractère abstrait et unifiant de la loi est inaudible pour un certain nombre de personnes auxquelles on dit « il faut vivre ensemble, il faut se mettre d'accord sur la règle du savoir-vivre ensemble, tu parles ». Et c'est la raison pour laquelle Hobbes a parfaitement raison d'essayer de repenser le droit à partir d'une situation de guerre civile. C'est-à-dire essayer de repenser le droit à partir d'une situation où il n'y aurait pas de présupposés communs. Pas de complicité, pas d'affinité, pas de langue commune. Que feraient ensemble des gens qui n'auraient pas de langue commune, qui n'auraient pas de croyances communes, qui n'auraient pas de gestes communs ? Pourrait-il invoquer un quelconque contrat, comme Hobbes nous invite à l'imaginer, qui serait au fond une raison bien réglée des rapports de force ? Les thèses de Habermas, telles que je vais essayer de les expliquer. Alors Habermas est, je vous préviens, un auteur difficile et un auteur dont la lecture n'est pas très agréable. Je dois dire, il ne m'entend pas, que son écriture est vraiment pâteuse. Mais je vais m'efforcer donc de faire un Habermas pour les nuls, c'est-à-dire un Habermas par un nul. Nous sommes entre nous. Pourquoi Habermas peut-il retenir notre attention ? Parce qu'il est celui qui manifestement, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, a poussé le plus loin la tentative de donner un fondement absolu au droit, mais qui ne soit pas extérieur au droit. Vous voyez ? Un fondement absolu au droit qui soit immanent au droit. Parce que si le fondement absolu du droit est extérieur au droit, il justifie la désobéissance. Je désobéirais pour des raisons religieuses ou morales. Si le fondement absolu du droit est immanent au droit, alors celui-ci se suffit à lui-même et ne rend pas possible le recours d'une quelconque conscience qui pourrait invoquer un principe supérieur et extérieur, puisque transcendant, ça signifie supérieur et extérieur. On a donc au fond trois hypothèses au terme de ces six conférences. Soit le fondement du droit est extérieur au droit, il le fonde, mais le relativise par la même. Soit le droit est sans fondement et il n'est que la parole du premier occupant, que la parole donnée à celui qui dispose de la force ou de la puissance. Soit on peut s'efforcer de trouver un fondement immanent au droit, et c'est le sublime effort de Habermas. Et j'espère vous faire suivre ce soir un feuilleton, car ce sublime effort de Habermas va le conduire sur des chemins inattendus pour lui. Allons-y. Il s'agit donc de fonder rationnellement le droit, c'est-à-dire de fonder la légitimité à partir de la légalité. Cette fondation, j'en indique la clé, elle est liée à une philosophie de l'intersubjectivité. C'est-à-dire que nous sommes façonnés, cultivés dans l'Occident par des sublimes philosophies de la raison et de la raison telle qu'elle est placée dans un sujet souverain qui a, pour ainsi dire, accès à des principes et il a d'autant plus accès à ces principes qu'il est plus individué. Alors le modèle du contrat, c'est ça, vous voyez, ce qui est bien exprimé par nos isoloirs. Dans l'isoloir, on met un individu qui est à l'abri du regard de sa belle-mère et de ses voisins. Et cet individu, une fois le rideau tiré, il est censé être directement branché sur une rationalité qui efface toute considération partisane, intéressée, affective, etc. Et le contrat serait la résultante de cet accord conclu entre des individus porteurs par eux-mêmes d'un lien à la rationalité absolue. Pour des raisons que je ne développerai pas, cette image de la raison a souffert au cours de l'histoire récente de la philosophie, et c'est pourquoi, à l'idée d'une rationalité incarnée par le sujet derrière l'isoloir, on préfère l'idée de l'intersubjectivité. Et il s'agirait de fonder l'objectivité comme en science à partir de l'intersubjectivité. Et de la possibilité, dont la science nous donne le modèle, que des gens qui sont indiens, russes, chinois et auvergnats puissent faire de la science ensemble, puissent même progresser ensemble et que l'un apporte sa pierre à l'édifice tandis que l'autre cède sa place. La science nous donne un magnifique modèle, non pas d'objectivité, contrairement à ce que pense le sens commun, mais d'intersubjectivité. L'objet étant la résultante de cette intersubjectivité, la composition issue de cette intersubjectivité. On peut donc dire que la philosophie de Habermas est une philosophie du nous, ou selon donc cette expression sans cesse jetée de manière incantatoire chez nous, du vivre ensemble. Mais le vivre ensemble est-il autre chose qu'une incantation? L'idée est la suivante, je vous livre tout de suite la clé. L'idée est la suivante, ce qui est absolu, c'est précisément les procédures. Voilà, vous pouvez repartir, l'exposé est terminé. C'est-à-dire, ce qui est absolu, ce n'est pas l'objet, ce qui est absolu, ce n'est pas la fondation, ce n'est pas un divin qui serait le foyer vers lequel se dirigent toutes les pensées. Ce qui est absolu, c'est les procédures. Et c'est pourquoi la philosophie de Habermas peut être résumée à travers ce mot qu'il a promu en commun avec son ami Karl Otto Appel, de éthique de la discussion, discours éthique. Je lis quelques lignes de démocratie, droit et démocratie. Je partirai de la situation d'une société désormais largement profane, dans laquelle l'ordre normatif doit être assuré sans recours à des réalités métasociales, métaphysiques. Il faut donc qu'on trouve à l'intérieur de la société une assurance suffisante sans avoir besoin de recourir à un méta quelconque. Les certitudes du monde vécu, qui sont de toute façon plurielles et de plus en plus différenciées, si on s'interrogeait mutuellement sur nos situations de famille, ça serait drôle, n'offrent plus de compensation à ce déficit. Ainsi, l'intégration sociale, le vivre ensemble, incombe de plus en plus aux efforts pour s'entendre, qui sont entrepris par des acteurs pour lesquels la validité et l'effectivité, donc la force d'obligation et la contrainte imposée, se sont séparés et sont devenus incompatibles, en tout cas à l'extérieur des domaines d'action régulés par les mœurs et les habitudes. Vous voulez que je relise cette phrase ? D'accord, si vous insistez. Ainsi, l'intégration sociale incombe de plus en plus aux efforts pour s'entendre qui sont entrepris par des acteurs pour lesquels la validité et l'effectivité, c'est-à-dire la validité et l'effectivité, c'est je reconnais que c'est valable et c'est effectif. J'y obéis. Nous sommes tellement divers dans nos situations religieuses, familiales, affectives, etc., que le pont de la validité à l'effectivité n'est acquis pour personne actuellement, même pas pour vous, hein, qui est pourtant de citoyens honnêtes. Pour lesquels la validité et l'effectivité est donc à la fois la force d'obligation des convictions rationnellement motivées, se sont séparées et sont devenues incompatibles, en tout cas à l'extérieur des domaines d'action régulés par les mœurs et les habitudes. Voilà notre problème que je traiterai en trois points rapides et négligents. Le premier que j'ai intitulé « De la sociologie à la morale », le deuxième que j'ai intitulé « De l'éthique au droit » et le troisième « Du droit à la religion ?» Point d'interrogation. Ah, on est obligé, vous voyez. On est tellement coincé qu'on est obligé de mettre un point d'interrogation pour s'excuser de penser. Mais ce point d'interrogation, Habermas l'écrit lui-même. Les premiers travaux de Habermas relèvent plutôt de la sociologie. En 1962, Habermas est né en 1929. Si je ne me trompe pas, il a donc 86 ans, il est en pleine forme. Voilà. Donc un jour, il viendra peut-être au collège supérieur. Et donc en 1962, Habermas publie un ouvrage qui est très important, dont je vous recommande la lecture si vous avez un peu de goût pour la philosophie, qui s'appelle « L'espace public ». Et dans lequel il décrit la modernité, dans lequel il caractérise la modernité par l'avènement de l'espace public. Avènement de l'espace public qui fait exploser le domaine de l'opinion et de la controverse. On peut dire que avant cette ouverture de l'espace public dans la modernité, il y avait le discours des religieux et le discours des politiques, c'est-à-dire des discours d'autorité, qui rivalisaient et étaient pris dans une partie de main chaude. Arrive un troisième partenaire, l'espace public. Et ce troisième partenaire, il arrive à peu près au XVIIe, il explose au XVIIIe siècle. Il est caractérisé par les cafés, les salons, les journaux, l'Internet et tout ce que vous voulez. Et c'est-à-dire un espace où quiconque peut intervenir et sans avoir besoin de rendre compte de son autorité. Personne ne m'a demandé mes diplômes. Et dans l'opinion publique, on peut consulter chacun, qu'il soit coureur cycliste, pâtissier, philosophe, chanteur, c'est ce qu'on appelle les intellectuels. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? C'est quelqu'un qui intervient dans le champ de l'espace public indépendamment de sa compétence. Et donc un coureur cycliste auquel on demande « Que pensez-vous des centrales atomiques ?» il est un intellectuel. C'est-à-dire qu'il intervient dans l'espace public indépendamment de ses compétences à partir d'une autorité qu'il a prise ailleurs comme coureur cycliste. C'est ce qu'on fait quand on interroge un philosophe et qu'on me demande comme philosophe « Que pensez-vous de telle chose ?» Je ne suis pas plus compétent qu'un évêque ou un pâtissier. C'est ça l'espace public. Alors il est caractérisé par trois points fondamentaux. Donc c'est le troisième personnage, entre et au-delà du religieux et du politique, et qui devient le personnage le plus important. Par trois traits fondamentaux, premier trait, on n'en a pas fini, et par bonheur, on le voit se développer, c'est la circulation de l'information. C'est-à-dire que l'information n'est plus réservée à des détenteurs des moyens d'information. Et on n'a pas seulement besoin de Wikileaks pour nous le rappeler, mais sans cesse, on voit circuler des canaux inouïs d'informations. Le Collège supérieur, à sa manière, en est un, mais il y en a des milliers d'autres et des canaux autrement plus amples. Deuxième caractéristique de cet espace public, tel qu'il est décrit par Habermas en 1962, il dit « Ce sont des personnes privées rassemblées en public. » Excellente définition. Ce sont des personnes privées rassemblées en public. Nous sommes ce soir des personnes privées rassemblées en public. Des personnes privées rassemblées en public ne doivent répondre que d'une exigence, c'est d'être audibles. Et la condition pour être audible, c'est d'être rationnel, au moins raisonnable. C'est-à-dire que dans l'espace public, une parole d'autorité est devenue inaudible. Dans l'espace public, une parole mystico-gélatineuse marche encore aux marges, et dans les magasins de cosmétiques, mais sinon, elle est devenue complètement inaudible. Et donc, qui s'avance dans l'espace public, comme je le fais ce soir, ne peut s'y avancer que pour autant qu'il rend raison de ce qu'il dit. Socrate aurait été content. Parce que c'est justement ce qu'il a essayé, de faire sur la place publique que des personnes privées puissent deviser indépendamment de la référence à une autorité politique ou religieuse. Il avait une certaine avance sur son temps. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Je lis un discours de Fox, qui est, vous le savez, un grand orateur. Alors, l'Angleterre est le pays dans lequel cet espace public s'est développé en premier et avec excellence, et il continue d'ailleurs de se développer, et nous n'arrêtons pas de recevoir des leçons de démocratie de l'Angleterre, si toutefois nous sommes assez modestes pour les écouter. Et donc en 1792, Fox, qui était donc un député au Parlement, prononce le discours suivant. À propos d'une question controversée sur l'engagement dans la guerre. Il est assurément juste et avisé de consulter l'opinion publique. Un député. On est en Angleterre. Si l'opinion publique ne se trouvait pas en accord avec la mienne, si, après que je leur ai montré le danger, il ne leur apparaissait pas sous le même jour, et s'il pensait qu'un autre remède fût préférable au mien, je considérerais comme de mon devoir envers mon roi, envers mon pays et envers mon honneur de me retirer. L'opinion publique devient donc le principe supérieur au roi, au pays et à l'honneur. Et si l'opinion publique me contredit, il est de mon honneur de me retirer. Manifestement, le sens du mot honneur a changé par rapport à la chevalerie. Ou au contraire, dans la chevalerie, il s'agissait de relever un défi face à l'autre. Je considérerais comme de mon devoir, envers mon roi, envers mon pays, envers mon honneur, de me retirer afin qu'ils puissent poursuivre le projet qui leur semblait meilleur. Et avec le moyen qu'il y faut, c'est-à-dire avec un homme qui penserait comme eux. Mais une chose est claire, et la conclusion est superbe, enfin c'est ce que Habermas place en conclusion, c'est que je dois donner au public le moyen de se faire une opinion. C'est-à-dire que l'apparition, l'émergence de ce troisième personnage, l'espace public, fait naître un devoir nouveau, donner au public les moyens de se faire une opinion. C'est-à-dire lui donner une éducation, lui donner une information et permettre dans cet espace public des échanges le plus raisonnable possible. La troisième caractéristique de cet espace public, le mot est un mot décisif pour comprendre Habermas, l'espace public ouvre ainsi une communauté idéale de discussion. S'il y avait un seul mot que vous deviez retenir, ça serait ça, communauté idéale de discussion. C'est-à-dire que potentiellement, je m'expose à discuter avec tout le monde. Et cette communauté de discussion, elle est idéale, c'est-à-dire qu'elle ne se résume pas à ceux qui sont actuellement présents dans la situation d'interlocution ou de dialogue, mais elle est adressée urbi et orbi, pour reprendre une autre expression, et tout le monde peut y intervenir. C'est à peu près ce qui se passe avec nos blogs, Facebook, Twitter et tout ce que vous voulez. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une situation qui renvoie à une communauté idéale, archétypale de discussion et dans laquelle je ne peux intervenir que pour autant que je m'y exprime de manière rationnelle. L'injure y sera sanctionnée, par exemple, pensez à ce pauvre Ibrahimovic. Cette destitution de toute parole d'autorité instaure, et là on retrouve quelque chose qu'on avait vu à propos de Hobbes, instaure ce que Habermas appelle une guerre civile mondiale. L'ouverture de l'espace public, c'est une guerre civile mondiale. Guerre civile parce qu'elle ne passe plus par les canaux du pouvoir, et mondial parce que ce débat d'opinion est devenu et devient nécessairement rend poreuse toutes les frontières, toutes les limites, toutes les subdivisions territoriales. Et nous avons la chance de vivre dans cette époque passionnante où le monde existe, ne serait-ce que par le fait que nous prenons conscience d'une communauté de destin. Avec, par exemple, des épisodes tels que ce nuage de Tchernobyl qui ne s'est pas arrêté au poste frontière de la France. Et donc, dans la mesure où le monde éprouve une communauté de destin, dans la mesure où il s'ouvre un espace idéal d'interlocution où chacun ne peut intervenir que pour autant qu'il est rationnel et non pas en se réclamant d'une autorité, eh bien, on crée une situation de guerre civile mondiale. C'est magnifique. C'est ce qui nous donne cette impression si forte de fragilité, d'insécurité. Je vous mets au défi de produire une seule idée qui ne soit pas déjà objet de contestation. C'est à partir de ce constat sociologique qu'on peut comprendre comment Habermas et Karl Otto Apple, ça s'écrit A-P-E-L, ont élaboré donc ce que l'on appelle l'éthique de la discussion, discours éthique, c'est-à-dire la volonté de fonder rationnellement une exigence morale à partir des exigences de la discussion. Fonder une exigence morale à partir des exigences de la discussion. Fonder l'idée d'égalité, de liberté, de fraternité comme principe à la fois de la vie civile et de la vie morale, à partir de ce qui se passe quand un homme discute avec un autre. Mais au fond, c'est ce que Socrate a essayé. Alors, je ne sais pas si nous avons plus de moyens d'avancer que Socrate, mais en tout cas, nous sommes plus exposés au problème que Socrate. Enfin, encore que lui, y a été jusqu'à la mort comprise. Nous pouvons lire le texte, le premier texte. Le droit positif ne peut emprunter personne. Alors, qu'est-ce que c'est que les exigences et la discussion ? Premier texte, Habermas, et extrait de l'éthique de la discussion, 1996, d'un recueil de textes en vérité. Personne ne peut sérieusement entamer une argumentation s'il ne suppose pas une situation de parole qui garantisse en principe la publicité de l'accès, pas de secret, l'égalité de participation, pas d'autorité, la sincérité des participants, pas d'opacité, pas de contradiction, des prises de position sans contrainte, ce qui est la conséquence de l'idée qu'il n'y a pas d'autorité préalable. Vous pouvez lire attentivement et méditer toute la nuit ces quatre énoncés. Ils sont parfaits. C'est ce qui se passe dès que l'on fait un cours de philosophie. Moi, c'est ce que j'ai vécu toute ma vie comme professeur de philosophie. Alors évidemment, comme professeur de philosophie, j'ai une estrade d'ailleurs, je l'ai toujours ce soir. Je vous écrase, je vous domine, je vous transcende. Mais en vérité, dès l'instant que je parle, je m'expose. Et je ne peux pas parler si je ne tiens pas un discours que vous puissiez critiquer. Et je ne peux pas parler si je ne présuppose pas que tout le monde peut rentrer dans la pièce. Je suis chrétien, mais je ne dirais pas « cette pièce est réservée aux chrétiens ». Je suis vieux, mais je ne dirais pas « cette pièce est réservée aux vieux ». Je suis lyonnais, bon. Eh bien, on accueillera même des non-lyonnais. Et on peut même aller chercher loin. Mais voilà, relisons ces quatre traits. Publicité de l'accès, il n'y a pas de condition d'entrée dans l'espace idéal de discussion. C'est une situation objective d'égalité. Égalité n'est plus une abstraction. Moi, j'ai toujours aimé dans mon métier, mais j'ai toujours été émerveillé. J'ai été émerveillé inusablement dans mon métier. Peu vous importe. Mais une des choses qui m'émerveillait, c'est de voir un petit morveux de 17 ans qui disait « Ouais, moi, je suis pas d'accord avec Platon. » C'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que Platon a rendu ça possible. Et je peux pas lui dire « T'as vu mes diplômes ?» Et puis en plus, Platon n'avait pas passé son bac. Donc on ne pouvait même pas dire que Platon avait des diplômes. Et donc quiconque pense ne peut penser que dans un espace libre d'interlocution. Publicité, pas de secret. Égalité de participation, c'est-à-dire pas d'autorité préalable. Alors, on en joue encore un peu, mais... Sincérité des participants, c'est-à-dire que je dois pouvoir vérifier que celui qui énonce ça le vit, ou n'est pas trop en contradiction avec ce qu'il dit. Ça pose des problèmes à nos politiques. Des prises de position sans contrainte, ça veut dire qu'il n'a pas peur de son petit chef, il n'a pas peur de son voisin, il n'a pas peur de sa belle-mère. Et donc il peut s'exprimer sans peur et sans crainte. Après, on déboule directement dans Socrate. Les participants ne peuvent vouloir se convaincre que pour autant qu'ils présupposent pragmatiquement que leur oui et leur non se laissent déterminer par la seule force sans contrainte de l'argument le meilleur. La philosophie commence à la distinction oui-non. Et lorsque Socrate discute avec un petit esclave, il ne demande pas autre chose au petit esclave ignorant que de dire « oui, non, non, oui ». Tout à fait, Socrate. Bon, parfois il y a une variante. Mais la responsabilité du oui et du non est la responsabilité maximale d'un individu et du lien social. Que ton oui soit un oui et ton non un non, tout le reste vient du démon, a dit un excellent auteur. Allons un peu plus loin à la fin du texte, cette ligne de la fin. Ces présuppositions pragmatiques universelles auxquelles les participants à une argumentation doivent toujours procéder à leur entrée dans une argumentation, qu'elle soit institutionnalisée ou non, n'ont nullement un caractère d'obligation. Elles ont plutôt le caractère d'une nécessité transcendantale. Transcendantale ne signifie pas transcendant. Hein. Transcendantale signifie indépendant des conditions. Ça, c'est dans un film superbe de Romère, où une héroïne dit « Ouais, toi, t'es comme tout le monde, tu confonds transcendantal et transcendant. Bon. » Transcendantal signifie indépendant des conditions. Donc, quiconque, c'est pas une question de devoir, il n'est pas obligé, je ne peux pas rentrer dans une discussion si je n'accepte pas d'être contredit. Je ne peux pas rentrer dans une discussion si je n'accepte pas de changer d'avis. Ah. Je ne peux pas rentrer dans une discussion si je garde des arguments dissimulés dans ma manche. Ou alors c'est une négociation âpre. Mais normalement, dans une discussion, je suis passé à la fouille auparavant et je n'ai pas d'argument dissimulé dans ma manche que je vais sortir subrepticement. Ça arrive dans les négociations. Mais ce n'est justement pas une situation de libre discussion. La pratique d'argumentation ne laisse pas le choix à ses participants avant même toute institutionnalisation. Dès qu'ils veulent simplement prendre part à une telle pratique, ils ne peuvent éviter de procéder sous la forme de présuppositions de communication à certaines idéalisations. Détaillons l'argument. Premier point, donc c'est ce qu'on appelle la discussion, le dialogue si vous voulez. Premier point essentiel, cette éthique de la discussion, comme toute éthique, a pour but de protéger le plus faible. La finalité de l'éthique, c'est de renverser le rapport de force et de renverser le rapport de force par la protection du plus faible. Or, la situation créée par l'espace public fait de nous tous des faibles. Fait de nous tous des gens exposés et fragilisés. Et ça se voit dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos partout. Nous sommes tous fragilisés. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à une société simultanément de plus en plus complexe et de plus en plus individualisante. Je ne développerai pas pourquoi, mais chacun peut l'observer. Et dans une société de plus en plus complexe et de plus en plus individualisante, chacun est plus fragile. Fragile face à l'amour, fragile face à la mort, fragile face à la souffrance, fragile face à son métier. Et donc la question morale, c'est bien comment répondre à cette situation de fragilité dans laquelle nous nous trouvons de plus en plus exposés. Deuxième caractéristique de cette éthique telle qu'elle naît de la discussion, c'est que celui qui parle, alors là, je voudrais pouvoir le développer, mais je n'ai hélas, je manque de temps, mais je veux bien revenir dessus. C'est que celui qui parle, du fait qu'il parle, est émancipé de ses propres servitudes. Le fanatique ne parle pas, le violent ne parle pas, car l'obligation de parler suppose qu'on ait accepté de constater ses ignorances, ses inerties, ses faiblesses, etc. Le courage de parler suppose d'avoir perçu en soi ses points arthritiques, ses points d'ignorance, et d'avoir l'audace de s'exposer. Moi, je suis chrétien. Comme chrétien, on me demande de m'expliquer. Je ne peux pas dire « Ah ben les gars, ça ne s'explique pas. Hein. Vous n'avez qu'à chanter « Alléluia » et ça terminera. » Ça ne marche pas. Je suis donc obligé d'exposer. Quand j'expose, je m'aperçois qu'il y a des choses que je ne sais pas bien. Il y a des choses que je n'ai pas bien comprises. Et que j'ai acceptées au fond par habitude, par servitude, par conformisme, que sais-je. Et à chaque point de conformisme naît la tentation d'une violence. Dès que je sens en moi une induration conformiste, je suis tenté de violence. Et je suis tenté de dire à l'autre, ferme ta gueule. Et donc, la simple obligation de parler est une véritable psychanalyse de nos indurations. Une véritable émancipation de toutes nos timidités. Si bien que le fanatique est celui qui n'a pas la foi. On est sûr d'une chose, c'est que le fanatique n'a pas la foi. Parce que précisément, il est fanatique parce qu'il éprouve la fragilité de ce à quoi il croit. Et qu'il ne peut pas l'exposer. Il ne peut pas en rendre compte. Et donc le simple fait de parler est libérateur, non pas ça m'énerve tous les trucs, les dialogues, être à l'écoute de l'autre, moi je ne m'énerve pas. C'est pas être à l'écoute de l'autre, c'est parler qui est important. Il est bien plus difficile de parler que d'être à l'écoute de l'autre. Dis ce que tu as à dire. Vas-y. Et là, tu vas découvrir, comme dans une psychanalyse, tous les points d'induration, tous les points de fixation. Donc la parole libère le parlant. Je risque pour une fois d'être un peu plus long que d'habitude, mais je crois que ça vaut le coup. Je demande aux habitués de m'excuser, parce que c'est une pensée qui n'est pas connue et qui est tellement passionnante qu'on peut s'arrêter un peu plus longtemps. Si vous avez un train à prendre, vous le prendrez demain. Celui qui veut se procurer toute la clarté possible sur sa vie dans son ensemble, celui qui veut fonder d'importantes décisions quant aux valeurs et s'assurer de sa propre identité, celui-là ne peut pas se faire représenter par un autre dans une discussion. Vous voulez que je répète ? Celui qui veut se procurer, quand vous vérifierez le texte, vous voyez que je le trahis un peu. Celui qui veut se procurer, c'est page 104 de Éthique de la discussion. Celui qui veut se procurer toute la clarté possible sur sa vie, celui qui veut fonder d'importantes décisions quant aux valeurs et s'assurer de sa propre identité, celui-là ne peut pas se faire représenter dans une discussion. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, si vous voulez savoir ce que je pense, demandez-le au pape. Pourtant, c'est superbe comme réplique. On l'attribue à un député au XIXe siècle, je trouve cette réplique superbe. Mais je ne peux pas le dire, je ne peux pas me faire représenter. La troisième caractéristique de cette éthique, cette exigence de rationalité est intrinsèque au langage lui-même. C'est-à-dire que quiconque parle accepte les mêmes lois du langage que son interlocuteur. Je ne peux pas travestir la grammaire. Je ne peux pas changer le sens des mots. Et quiconque s'engage dans une discussion s'engage, par exemple, à garder le même sens aux mots. C'est pas toujours facile. S'engage à ne pas se contredire. C'est pas toujours facile. Et ça, c'est des exigences qui ne tiennent pas à un principe moral tombé de Sirius, mais qui tiennent à la langue. Simplement au fait que il faut garder un sens identique aux mots, ne pas se contredire et accorder toujours au destinataire, comme le fait Socrate, la responsabilité du oui et du non. C'est ce qui nous conduit au deuxième texte de Karl Otto Appel. C'est le livre le plus facile sur la question. Éthique de la discussion, Karl Otto Appel. Ce qui appartient aux indépassables présuppositions de l'argumentation, c'est le fait d'avoir depuis toujours reconnu certaines normes morales fondamentales, pas par moralisme, mais parce qu'on parle, celles de la communauté idéale de communication, anticipée de manière contrefactuelle. Contrefactuelle, ça veut dire en faisant varier les hypothèses, en disant qu'est-ce qui se passerait si on ne le faisait pas. Anticipée de manière contrefactuelle dans la communauté réelle d'argumentation. Je ne peux ici pour l'instant que les mentionner en passant, mais en font au moins partie. Alors, quatre points. La norme fondamentale de justice, c'est-à-dire du droit égal de tous les participants de discussion possible à employer tous les actes de langage propre à articuler des prétentions à la validité susceptibles, cas échéant, de consensus. Premièrement, la justice, ce n'est pas un principe tombé des cieux, c'est la possibilité pour chacun de rentrer dans l'espace idéal de discussion. C'est-à-dire que si vous avez une question rentrée que je vous ai empêché de la poser, vous direz « c'est pas juste ». J'ajoute la norme fondamentale de solidarité entre tous les membres et au-delà. Solidarité, ça signifie que dans l'espace idéal de discussion, l'engagement des interlocuteurs est tel qu'ils sont coopérateurs. Même d'ailleurs celui qui, par exemple, comme vous actuellement, ne parlerait pas. Vous coopérez d'une certaine manière à ce que je dis. Et donc vous y participez. J'ajoute la norme fondamentale de solidarité entre tous les membres et au-delà de tous les membres potentiels de la communauté d'argumentation actuelle, en principe illimitée, étant donné que dans le cadre de l'entreprise commune de la résolution argumentative des problèmes, ils sont liés et renvoyés l'un à l'autre. C'est pour ça qu'une violence est possible, puisque dès l'instant que nous discutons, nous sommes liés. Donc toute discussion, et c'est ce que Socrate nous montre très bien, c'est ce que Platon nous montre très bien, c'est que tous les dialogues échouent chez Platon et finissent tous par la violence. Parce qu'on est liés. Et une fois qu'on est liés, on peut être méchant, on peut être de mauvaise foi, la violence est là. La violence ne serait pas possible si vous ne pouviez pas me faire de la peine. Du fait que nous nous engageons dans une discussion, nous acceptons une solidarité qui également rend possible la violence. S'il n'y avait pas de solidarité, il n'y aurait pas de violence. Enfin, excusez-moi, il y a 3 critères, il n'y a pas 4. Enfin, la norme fondamentale de co-responsabilité, alors là c'est la plus dure, de tous les partenaires de discussion dans l'effort solidaire visant à articuler et à résoudre des problèmes. C'est-à-dire qu'au terme de la discussion, je dois accepter les conclusions de cette discussion. Moi. C'est assez rare. Mais bon, dans la mesure où nous sommes engagés de manière solidaire, je ne peux pas rentrer dans une discussion en excluant de changer d'avis. Sinon, je ne discute pas. Et je ne peux pas rentrer dans une discussion donc en excluant de revenir au point de vue de l'autre et de lui dire, finalement, tu avais raison. Moi, je croirais au dialogue, par exemple, les débats politiques. Je croirais au débat politique quand j'entendrais un homme politique dire, je vous remercie, sur ce point, vous m'avez convaincu. Je ne l'ai pas encore entendu, mais ce n'est pas absolument impossible. Et je parie que celui-ci aurait beaucoup de voix. Essayer, puisque on a tout essayé, on peut essayer ça. Deuxième partie, sur laquelle je serai obligé de passer plus vite, de l'éthique au droit, car évidemment, cette communauté idéale de discussion, on peut lui reprocher d'être idéale. Les critiques n'ont pas manqué, par exemple de Bourdieu, disant « c'est bien joli, cette communauté idéale de discussion, mais il n'est jamais vrai que... tous ont également part, parce que tout le monde n'a pas accès au micro, tout le monde n'a pas accès au pouvoir, il y a des dominations symboliques, il y a des dominations économiques qui font que la communauté idéale est un leurre. Alors c'est toujours, la discussion est réitérative dès qu'il est question d'idéal, parce qu'on peut toujours dire c'est un leurre, mais on peut aussi dire que l'idéal c'est ce qui travaille le réel. Et qu'à partir du moment où j'ai dessiné cet idéal, je peux aussi contribuer à faire bouger la situation dans la réalité même. Et c'est là qu'il y a un lien de l'éthique au droit, dans la mesure où le droit est ce qui va permettre d'élaborer concrètement les conditions de la discussion. Bon, et un élément simple, par exemple, le droit est caractérisé par le contradictoire. C'est quand même fondamental. C'est le trait fondamental du droit. On n'en a pas fini, d'ailleurs. On a à peine commencé. Et donc, le droit élabore les règles de la discussion et détermine les formes concrètes de la reconnaissance. Parce que ce qui est en jeu, alors il faudrait faire intervenir un troisième larron qui est Axel Honneth, qui a réfléchi à partir des travaux sur Habermas sur la notion de reconnaissance. C'est-à-dire comment se fait-il que quelqu'un va être reconnu comme pouvant prendre part à l'échange ou pouvant prendre part au débat. Et en tout cas, le droit donc fixe les caractéristiques formelles de reconnaissance, si bien que c'est l'affirmation réitérée de Habermas, le droit n'a pas besoin d'un fondement moral extérieur à lui, puisqu'il comprend en lui-même ce qui le fonde, c'est-à-dire les conditions formelles de la discussion. Je reprends encore un passage dans Droit et démocratie. Non, dans Éthique de la discussion. J'ai voulu vous épater avec tous ces livres, mais je m'y perds. Ça fait drôle d'avoir des livres devant soi. Du fait de la pluralité des acteurs et de la condition de la double contingence sous laquelle la réalité de l'une des volontés rencontre celle de l'autre, c'est-à-dire qu'on est exposé tous les deux, survient le problème supplémentaire de l'observation commune des buts collectifs. Alors, le problème de la régulation de la coexistence, tel qu'on l'a traité jusqu'ici, se pose également de manière nouvelle. Les discussions renvoient dès lors que l'intérêt propre doit être harmonisé avec l'intérêt étranger à la nécessité du compromis. La différence entre l'éthique et le droit, c'est que le droit étant la mise en œuvre des conditions objectives de discussion doit faire place au compromis. Alors qu'évidemment, l'éthique de la discussion, dans les conditions idéales que j'ai décrites, ne laisse aucune place au compromis. J'adopte le point de vue de l'autre, on ne va pas dire moitié-moitié. En revanche, là où des intérêts contingents sont en jeu, on doit pouvoir formuler les conditions d'un compromis. Dès lors que l'intérêt propre doit être harmonisé avec l'intérêt étranger, il y a nécessité du compromis. Dans les discussions, il s'agit de clarifier d'une identité collective. Le reste est plus compliqué. Ça nous a conduit au troisième texte. Le droit positif ne peut plus emprunter sa légitimité à un droit moral supérieur qui justifierait de désobéir, mais seulement à une procédure de formation de l'opinion et de la volonté présumée raisonnable. Adoptant le point de vue de la théorie de la discussion, j'ai analysé en détail cette procédure démocratique, notre sujet arrive, qui, dans les conditions du pluralisme social et idéologique, confère à la législation une force génératrice de légitimité. Donc on va faire procéder la légitimité de la légalité dans un contexte agonistique, dans un contexte de conflit. Ce faisant, je suis parti d'un principe qu'il ne s'agit pas ici de justifier en détail, selon lequel peuvent prétendre à la légitimité parmi les modes d'action et de réglementation, précisément ceux et celles que toutes les personnes susceptibles d'être concernées pourraient approuver en participant à des discussions rationnelles. Il y avait un débat, mettons le mariage pour tous, débat législatif. Vous rentrez dans le débat. Vous ne pouvez pas dire « Dieu l'interdit ». Vous pouvez dire « tous ensemble ». Mais bon, ça ne va pas loin. Alors, vous êtes obligé de rentrer dans un débat. Alors, après, on peut voir s'il est gauchis, mais où je suis parti d'un principe qu'il ne s'agit pas, selon lequel peuvent prétendre à la légitimité parmi les modes d'action et de réglementation, précisément ceux et celles que toutes les personnes susceptibles d'être concernées pourraient approuver en participant à des discussions rationnelles. Dur combat. À la lumière d'un tel principe de discussion, les citoyens examinent les droits qu'ils doivent se concéder les uns aux autres. En tant que sujet de droit, il leur faut ancrer cette pratique d'auto-législation dans le médium du droit lui-même. Il leur faut institutionnaliser en termes de droit les présuppositions communicationnelles, oui, je vous avais dit que c'était lourd, et les procédures même d'un processus de formation de l'opinion. Par conséquent, le code juridique établi au moyen du droit général de disposer des libertés subjectives doit être complété par des droits de communication et de participation, ce qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire que si le droit s'élabore à l'intersection de la discussion et des intérêts, il faut que tous puissent prendre part dans des conditions égales à cette discussion, et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ce qui revient à dire pour Habermas, qu'il n'y a de droit véritable que dans la démocratie, qui est en même temps la méthode et le principe. et dont on ne peut donc pas s'exonérer, et ce qui fait que la question donc devient non seulement une question juridique, mais une question politique, puisque la question donc devient celle de d'une démocratie. C'est exactement là que nous en sommes. Alors, je reviens à mon exemple initial. Donc, la France a subi violence de la part d'un certain nombre de ses citoyens qui ne se voient pas reconnus dans leurs convictions et qui, au nom de cela, tuent ou font exploser diverses choses. Alors, on balance les incantations démocratiques en disant « il faut vivre ensemble, il faut discuter ». Ouais. Seulement, ça ne marche pas. Alors, on va voir pourquoi. Mais ça veut dire qu'on se dit qu'il faudrait pouvoir répondre à cette situation de violence en donnant des vraies conditions de discussion. Il faudrait pouvoir dire au porteur de Kalachnikov « qu'est-ce que tu as à dire, toi ?» Et il faudrait pouvoir le placer dans une discussion éducative et culturelle telle qu'il puisse s'exprimer. Ce qui suppose qu'il ait accepté les règles de la discussion. Mais précisément, c'est ces règles de la discussion qu'il refuse, puisqu'il s'éprouve comme évincé par ces mêmes règles. C'est exactement le problème dans lequel nous sommes. C'est magnifique. Cela nous renvoie au quatrième texte. Par-delà la question pragmatique de ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec Koulibaly ? Par-delà la question pragmatique de ce que nous pouvons faire pour nous acquitter de certaines tâches concrètes, la formation de l'opinion et de la volonté politique doit avant tout élucider les trois questions suivantes. Celle, premièrement, sous-jacente à la formation des compromis, de savoir comment accorder entre elles des préférences rivales. Guerre civile. Celle d'ordre éthico-politique, de savoir qui nous sommes. Nous sommes Français, nous sommes Français. C'est notre nation, c'est les valeurs de notre République. Mais qui sommes-nous ? Celle d'ordre éthico-politique de savoir qui nous sommes et qui nous voulons sérieusement être. Ainsi que, troisièmement, la question d'ordre pratico-moral de savoir comment nous devons agir. Donc, vous voyez, trois questions. Comment faire pour faire vivre ensemble des goûts et des couleurs opposées ? La réponse à cette première question ne peut venir que de la réponse à la deuxième, c'est qui nous voulons être ? Qu'est-ce qu'un Français ? Et la réponse à la deuxième question ne peut venir que si nous pouvons répondre à la troisième, c'est « que devons-nous faire ?» Ouvrir des écoles, ouvrir des prisons, créer des centres de, je sais pas quoi, de détention, enfin, libre marché des armes. Au cours des négociations dans lesquelles on soupèse les différents intérêts en jeu, peut surgir une volonté générale composite, tandis qu'au cours de discussions herméneutiques sur l'identité collective, qui sommes-nous ? C'est une volonté générale authentique, nos valeurs, qui ont été bafouées de plein fouet pendant les minutes de silence, par exemple, ou qui étaient déjà bafouées de plein fouet bien avant, au moment de l'hymne national au Stade de France. Donc la question « qui sommes-nous » est préalable. J'insisterai tout à l'heure sur cette question. C'est une volonté générale authentique au cours des discussions morales de justification et d'application, une volonté générale autonome qui peut se former. Bon, la suite, vous la lirez. Si, on montre, quand, je lis quand même les trois dernières lignes qui sont importantes pour reprendre la question de la démocratie, c'est ce que montrent les conséquences qu'ont les différentes formes de communication pour la compréhension du système de représentation. J'insiste. D'ailleurs, ça commence à apparaître, et heureusement, qu'est-ce qui explique le ressentiment ? Qu'est-ce qui explique les votes protestataires ? Qu'est-ce qui explique la violence ? Qu'est-ce qui explique ? C'est celui qui ne se voit pas représenté. Il éprouve des choses et il n'est jamais représenté. C'est-à-dire que la représentation est la condition de participation au débat public. Cette représentation, elle est la représentation, par exemple, d'un mandat électoral, mais elle est aussi la représentation d'une émission de télé, puisqu'on a un espace public, qui est représenté dans cet espace public? Et si ce que je vis dans ma banlieue n'est jamais représenté, j'éprouve une violence objective, une éjection objective. Et avant de poser la question du vivre ensemble, effectivement, il faut se poser la question des modes de représentation, ce qui est la question même de la démocratie. Alors, j'insiste sur le qui nous sommes, car ici, Habermas parle en allemand. La question qui nous sommes est la question des Allemands, fut la question qui sommes-nous, fut la question des Allemands, particulièrement dans les années 80-90. Puisque les Allemands avaient quelque peine dans les années 80-90 à dire Deutschland über alles, etc., et à dire nous sommes Allemands du fait de notre histoire, du fait de notre terre. Et quelle est l'idée qui a germé en Allemagne et dont Habermas a été un défenseur? Nous sommes Allemands par la Constitution. Notre germanité, c'est plus la terre, c'est plus la langue, c'est plus la race, c'est plus notre histoire, puisqu'elle est quand même entachée. Alors on va se trouver une communauté idéale de participation, et cette communauté idéale de participation, c'est la Constitution. C'est ce qu'on voudrait que nos délinquants entendent. Comment voulez-vous qu'ils l'entendent ? Habermas a une formule qui est magnifique, il appelle ça le patriotisme de la Constitution. Le patriotisme de la Constitution est-il possible? Ou n'est-il qu'une abstraction qui glisse sur les situations comme l'eau sur les plumes d'un canard? Ce patriotisme de la Constitution est appuyé, selon Habermas, sur deux points fondamentaux, c'est les droits de l'homme, c'est-à-dire la possibilité, comme je l'évoquais lors d'une conférence au mois de novembre justement, la possibilité de placer un certain nombre de principes communs hors débat, c'est-à-dire que la condition de la discussion, c'est qu'il y ait des choses hors discussion. Et si la condition de la discussion, c'est qu'il y ait des choses hors discussion, eh bien on va dire que ces choses hors discussion, c'est ce que Mirabeau appelait l'axiomatique du droit, c'est les droits de l'homme. Et puis, deuxième principe, c'est celui de la souveraineté populaire. Troisième partie, du droit à la religion, point d'interrogation. En effet, Habermas, qui est vraiment celui, j'espère l'avoir montré, qui a poussé de la manière la plus logique, la plus conséquente, la plus claire, les exigences de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de ce que serait un droit qui serait, donc comme je le disais, fondé de manière absolue et immanente en même temps, indiscutable et immanente. Eh bien, dans les dernières années, il est en train de réviser son jugement. Il est en train de réviser son jugement, en particulier, comme l'évoque Paul Valadier dans une conférence qu'il a donnée au Collège supérieur, en particulier du fait du 11 septembre. Je lis une citation qui vient d'un dialogue de Habermas avec Derrida, dans lequel Habermas dit « Depuis le 11 septembre, je ne cesse de me demander si au regard d'événements d'une telle violence, toute ma conception d'une activité orientée vers l'entente, celle que j'appelais la théorie de l'agir communicationnel, n'est pas en train de sombrer dans le ridicule. » Voilà la question posée. In cauda. Où nous retrouvons bien la question que j'avais posée au départ, c'est-à-dire les grands principes peuvent-ils être opératoires s'ils n'embrayent pas sur des coutumes, s'ils n'embrayent pas sur des usages? Et c'est la question de la laïcité. Comment faire obéir à la loi des gens que l'on a arrachés à leur coutume? Vous arrachez un enfant à sa coutume, vous croyez que vous allez le mettre dans la démocratie? Vous en faites un voyou. Car il n'obéit, et chacun d'entre nous n'obéit, que pour autant que la coutume relaye les exigences de la loi. La loi, dans son abstraction, est complètement impuissante. Et donc, des enfants qu'on a arrachés à leur coutume ne rencontrent qu'une loi complètement abstraite et donc complètement impuissante. Si bien que, enfin, Je suis très content parce que moi, ça fait 40 ans que je me bats là-dessus. Enfin vient la question d'une laïcité qui, au lieu d'être la mise au silence des coutumes et des appartenances, soit leur reconnaissance, car cette reconnaissance est la condition d'une citoyenneté. On a fait de l'arrachement des appartenances une condition de citoyenneté. Ça fait des voyous, car le sentiment d'une appartenance est bel et bien la condition d'une citoyenneté, à condition qu'on ne mette pas quelqu'un devant des conflits de devoirs. Simone Veil a dit de manière très profonde et très juste, comme tout ce qu'elle disait, qu'une société qui met devant des conflits de devoirs est une société injuste. Et si on dit « tu es ou citoyen ou membre d'une communauté », on crée une situation injuste et on crée objectivement une situation de violence, et c'est ce qui est en train de nous arriver. Car la loi, dans son abstraction, est inopérante et vous pouvez toujours invoquer les valeurs de la République, elles sont parties en scooter. Détaillons. Ceci, Habermas le met particulièrement en évidence dans un dialogue superbe. Alors ça, vous pouvez le lire, c'est très très beau. Un dialogue superbe avec quelqu'un qui s'appelait à l'époque Joseph Ratzinger. Et qui est un dialogue justement sur la question de la sécularisation. Et dans lequel Habermas dit, avec l'honnêteté qu'il caractérise, et c'est le moins qu'on puisse attendre de quelqu'un qui a prêché l'éthique de la discussion, hein, que la notion de patriotisme de la Constitution n'est sans doute pas suffisante. Si les contenus moraux des droits fondamentaux doivent prendre corps dans des dispositions spirituelles, le moment cognitif, c'est-à-dire le moment intellectuel, ne suffit pas. À elle seule, une prise de conscience morale et un consensus mondial dans l'indignation ne suffit pas. Ne suffit pas à l'intégration minimale des citoyens dans une société, et dans une société mondiale avec une constitution politique. Entre les citoyens d'un État, une solidarité si abstraite et si médiatisée soit-elle par le droit, ne naît que lorsque les principes de la justice trouvent à s'insérer dans le réseau plus dense d'une culture orientée. Vous voulez que je relise ? Entre les citoyens d'un État, une solidarité si abstraite et si médiatisée soit-elle par le droit, ne naît que lorsque les principes de la justice trouve à s'insérer dans le réseau plus dense d'une culture orientée. La question devient alors passionnante, parce qu'elle entraîne un réexamen de ce que l'on appelle en France la laïcité. Et Habermas, qui n'est pas croyant, qui n'est pas du tout de culture chrétienne, il est complètement étranger à la culture chrétienne, il est de formation marxiste... Ça l'a jamais vraiment intéressé. Habermas dit, constate que, au fond, la question de la laïcité met les croyants et les incroyants dans des situations complètement inégales et injustes. Car le poids de la laïcité est beaucoup plus fort pour les croyants que pour les incroyants. Et donc celui qui serait un croyant peut se croire neutre et objectif dans la laïcité, mais celui qui est croyant, il en souffre. Et il l'éprouve comme une contrainte, même moi qui suis croyant par exemple, et qui est obligé de créer un centre pour pouvoir m'exprimer comme chrétien tranquillement. On y arrive. Je lis un peu plus loin, et puis après nous irons au dernier texte. À l'opposé de l'abstention d'une pensée post-métaphysique qui ignore tout concept de vie bonne et exemplaire, les Écritures saintes et les traditions religieuses articulent des intuitions concernant la faute, la rédemption, la sortie salvatrice d'une vie éprouvée comme ayant besoin de salut. Pendant des siècles, ces intuitions ont été subtilement déchiffrées et maintenues vivantes à travers leurs interprétations. C'est pourquoi, à la seule condition d'éviter le dogmatisme et la contrainte sur les consciences, quelque chose peut rester intact au sein des communautés que forment les groupes religieux. Quelque chose qui s'est perdu partout ailleurs et que le savoir professionnel d'experts seul est incapable de restituer. Il y a un savoir de l'humain des communautés qui s'est perdu, qui se perd, qui est en danger de se perdre si les communautés sont niées. Et ce savoir sur l'humain, le besoin de salut, le sens du péché, le repentir, le besoin d'amour, etc., les États auraient tort de s'en priver, ont tort de s'en priver, car s'ils s'en privent, la loi n'a plus de bras. La fin me paraît tout à fait magnifique. Lisons le texte, le sixième texte et dernier ensemble. Donc c'est dans le dialogue avec Ratzinger. Assurément, les charges de la tolérance ne sont pas également réparties entre les incroyants et les croyants. Comme le montrent les législations plus ou moins libérales sur l'interruption volontaire de grossesse. Néanmoins, la conscience sécularisée ne jouit pas non plus de la liberté religieuse négative sans en payer le prix. On attend d'elle qu'elle se livre à une autoréflexion sur ses propres limites, sur les limites de l'Aufklärung, sur les limites des Lumières. Un athée est-il capable de réfléchir à ses propres limites ? Bien, j'attends avec impatience d'en trouver. La compréhension de la tolérance dans les sociétés pluralistes avec une constitution libérale ne demande pas simplement aux croyants de prendre conscience face aux incroyants et à ceux qui croient autre chose, qu'ils doivent raisonnablement compter sur un dissensus. Bon, d'accord, un type qui est catho, il pense qu'il y a aussi des orthodoxes, des protestants, des musulmans, des bouddhistes, des juifs, etc. Donc il doit bien s'attendre à un dissensus. Mais de l'autre côté, la même prise de conscience est demandée aux incroyants. Eh bien, c'est ce qui n'est pas fait. Par exemple, nul n'est scandalisé en France que le président du Comité national d'éthique soit depuis toujours un scientifique athée réductionniste. S'il y avait un catholique, on serait étonné, on aurait peur. On n'a pas peur que ce soit un athée, on croit que l'athée est neutre. Mais c'est une plaisanterie. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris que l'athée a le même devoir de tolérance que le croyant. Et ce devoir de tolérance, ça n'est pas respecter une coutume, c'est comprendre. Beaucoup d'athées se croient tolérants simplement parce qu'ils ne nous tuent pas ou parce qu'ils nous laissent manger des trucs. C'est-à-dire, beaucoup d'athées se croient tolérants parce qu'ils voudraient respecter une coutume. Manque de peau, un chrétien n'a pas de coutume. Moi, je n'ai pas besoin d'être respecté, je n'ai pas besoin d'être toléré, j'ai besoin d'être compris. Et la tolérance qu'on m'accorde est un mépris. Si on ne cherche pas à me comprendre. Et si on me dit, oh ben oui, je respecte tes coutumes, tu peux danser la bourrée auvergnate. Non, moi, croyant, je ne défends pas une coutume du passé. Je défends des raisons. Je demande qu'elles soient entendues dans l'espace idéal d'interlocution. Hey. Et ça, c'est vraiment très heureux qu'à Habermas, tout d'un coup, à 80 et quelques années, disent, mais c'est vrai qu'au fond, les athées ont oublié de se dire que c'était à eux de comprendre les religions. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y en a quelques-uns, par exemple Alain. Mais, bon. Pour le citoyen qui n'a pas l'oreille religieuse, il y a des gens qui n'ont pas l'oreille religieuse, comme on dit oreille musicale. Pour le citoyen qui n'a pas l'oreille religieuse, cela signifie l'invitation nullement triviale à définir le rapport entre foi et savoir. Mais évidemment, tout le monde lui accorde que la foi ne s'explique pas. Alors évidemment, si les croyants même disent la foi ne s'explique pas, il dit, si ça ne s'explique pas, je te respecte et crois en la bourrée auvergnate. Je ne m'énerve pas. Je m'explique. Dans un espace idéal d'interlocution. Pour le citoyen qui n'a pas l'oreille religieuse, cela signifie l'invitation nullement triviale à définir le rapport entre foi et savoir, du point de vue des savoirs profanes, dans un sens autocritique. En effet, le fait de s'attendre à un désaccord persistant entre foi et savoir ne mérite l'hypothèse de raisonnable que si l'on concède aux convictions religieuses, y compris à partir de savoirs séculiers, un statut épistémologique qui ne relève pas simplement de l'irrationnel. Vous pouvez découper cette phrase et la mettre au-dessus de votre lit. C'est pourquoi, dans l'espace public politique, des images du monde naturaliste qui proviennent d'une élaboration spéculative d'informations scientifiques et sont pertinentes pour l'autocompréhension éthique du citoyen ne bénéficient pas de prime abord d'une supériorité sur des conceptions concurrentes issues de visions du monde ou de religion. La neutralité du pouvoir d'État quant aux conceptions du monde, qui garantit les libertés éthiques égales pour chaque citoyen, est incompatible avec l'universalisation politique d'une vision du monde sécularisée. C'est-à-dire que si vraiment une vision... Qu'est-ce que Habermas est en train de nous dire ? C'est qu'une vision du monde sécularisée n'est pas neutre. Et que la neutralité est incompatible avec une vision du monde sécularisée. Je ne comprends pas que ce texte ne soit pas plus connu. Enfin, il est vrai que Habermas n'est pas un type très accessible. Des citoyens sécularisés, quand ils assument leur rôle de citoyen, n'ont le droit ni de dénier à des images religieuses du monde un potentiel de vérité présent en elles, ni de contester à leurs concitoyens croyants le droit d'apporter dans un langage religieux leur contribution au débat public. Une culture politique libérale peut même attendre des citoyens sécularisés qu'ils participent aux efforts pour faire passer des contributions pertinentes issues issues du langage religieux à un langage public accessible à tous.